come closer. I want to talk to you. I'm going to tell you an astounding story. The story of the Maltese falcon. 600 years, the falcon has carried the mystery of a fabulous wealth under its grotesque wings. I could tell you a thousand tales of the men and women who have hunted this evil bird. But every story has the same ending. Murder. Listen to these incredible people, all consumed by their passionate greed for the Maltese falcon.
Nathalie Bonnat, vous êtes une des spécialistes, si ce n'est la spécialiste française de l'écrivain américain Dashiell Hammett et de son œuvre. Vous avez écrit sur Hammett, vous l'avez traduit, retraduit, et vous êtes à l'origine d'une exposition Dashiell Hammett, la naissance du roman noir, qui s'arrêtera à Arras à l'occasion du Salon du Livre le 1er mai prochain. Alors, tout d'abord, d'où vous vient cet intérêt, cette passion? Pour dire plutôt pour Dashiell Hammett, celui qui est considéré comme le père fondateur du roman noir américain.
Alors, d'où vient cette passion? Elle vient de mes lectures de jeunesse. En fait, j'étais angliciste, je le suis toujours d'ailleurs, et je lisais les textes en anglais. Je me suis dit, tiens, ce serait bien de lire des polars parce que c'est facile à lire. Donc j'ai pris La clé de verre de Glaski. Et je me suis rendu compte que c'était pas si facile, puisque j'ai pas compris grand-chose. Quand je l'ai lu, il y a beaucoup d'argot des années 20. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'était ça qui m'intéressait. C'était cette ambiance-là, ces sujets-là. Et ce qui est reconnaissable quand on lit Hammett la première fois et quand on le relit 10 ou 15 ans ou 20 ans après, c'est son style. Et j'ai aimé ça, donc voilà, j'ai commencé à creuser la question dans le cadre d'une thèse de doctorat. À l'époque, je n'avais pas choisi, j'avais travaillé sur Hammett et Chandler. Et ensuite, j'ai voulu me débarrasser de Hammett, donc j'ai écrit un essai aux éditions Ancrage en 97, et je m'en suis très mal débarrassée, puisque tout a commencé à partir de là.
Oui, parce que bon, cet essai, justement, c'est autour de l'œuvre de Hammett, mais il y a l'homme, Hammett, hein, qui vous intéresse aussi énormément, qui est au centre d'ailleurs de l'exposition, hein, qu'on pourra voir à Arras, puisque cette exposition permet de retracer la vie de Dashiell Hammett. Donc, Dashiell Hammett qui a d'abord été lui-même détective privé.
Oui, c'est vrai que je me suis intéressée à l'homme un peu plus tard, 3-4 ans après, parce que j'ai traduit la correspondance aux éditions Alia, et que la correspondance, c'est la meilleure entrée pour connaître l'itinéraire de quelqu'un, c'est quelque chose de très intime. Et donc, Hammett, oui, il m'intéressait après, plus seulement comme écrivain, mais plutôt par son parcours en tant qu'homme. Né à la fin du 19e siècle avec des valeurs plutôt d'un homme du 19e, valeurs humanistes, et projeté comme tous les gens qu'on a de sa génération, ce qu'on appelait plus tard la génération perdue en littérature générale, qui sont des gens qui ont connu la Première Guerre mondiale à 20 ans et qui n'en sont pas ressortis indemnes, puisque même Chandler qui a écrit 10 ans après Hammett, mais qui est de la même génération, lui est parti au front à la différence de Hammett. Et j'ai coutume de raconter cette histoire. Il a pris un obus allemand dans une tranchée et il a dit « Après, plus rien n'est comme avant ». Et si on veut comprendre ce que ces gens ont écrit dans les années 20 et 30, c'est peut-être à se rappeler qu'ils ont... cette phrase « Plus rien n'est comme avant », ce qui explique peut-être, ça explique pas tout dans la naissance du roman noir américain, mais ça explique qu'ils ont une vision du monde dans leurs livres qui est ce qu'on a en littérature générale, bien sûr, mais qui est l'essentiel. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me plaît dans le roman noir américain, c'est quel regard on porte sur le monde et comment on dit le monde à travers une intrigue policière ou pas, mais qui finalement n'est qu'un prétexte à parler d'autre chose, qui est à parler d'une certaine réalité sociale, une certaine réalité économique, comme on le voit dans Moisson Rouge, qui est le premier roman de Hammett. Et à cette différence près que Hammett est celui qui a commencé dans la vie professionnelle, non pas par être écrivain, mais par être, comme vous le dites, détective privé à l'agence Pinkerton, qui était la, avant la création du FBI, la seule force de police qui existait à l'échelle fédérale, enfin en tout cas qui avait des agences dans tous les États des États-Unis, et qui était surtout connue au début du siècle pour être utilisée par le capitalisme naissant pour réprimer les grèves. En fait, les conflits sociaux se réglaient, on envoyait une bande de repris de justice qui était embauchée par les Pinkerton et ça se terminait un peu dans le sang. Et c'est ce que raconte Ahmet au début de Moisson Rouge, qui est un roman de 1929, mais qui a été écrit au milieu des années 20 et publié dans la revue de Pulp Black Mask en 4 épisodes entre 27 et 29.
Alors justement, comment s'est fait ce passage entre une activité professionnelle très particulière, un détective, ce passage donc, entre cette activité professionnelle et l'écriture?
Eh bien, elle s'est faite, enfin, ce que j'ai essayé de montrer dans l'exposition que vous citez, c'était d'éviter la caricature, de ne pas dire ce qu'on a souvent dit de Ahmet, c'était un détective qui était devenu romancier, qui aurait écrit d'un seul coup des histoires de détective. C'est un peu plus compliqué que ça. Ahmet, je l'ai dit, a été démobilisé en 18. Avant la Première Guerre mondiale, il travaillait déjà pour la Pinkerton et il avait mené des enquêtes à San Francisco qui lui serviront certes après d'inspiration pour ses premières nouvelles, mais c'est surtout quelqu'un qui est démobilisé avec quelque chose qui sera important toute sa vie, c'est la maladie. Donc il est démobilisé avec une pension d'invalidité en tant que tuberculeux, puisque la grippe espagnole a ravagé encore plus férocement que la guerre l'armée américaine. Les soldats qui revenaient du front ont ramené la grippe espagnole et il y a eu des millions de morts. Et il est démobilisé et il ne peut plus, parce qu'il est tuberculeux, qu'il est également alcoolique depuis l'adolescence, et ça fait aussi partie de la maladie qui va être une des plaies de sa vie tout le restant de ses jours. Il est incapable d'avoir, après la Première Guerre mondiale, à cause de la tuberculose, la vie d'homme d'action qu'il avait eue avant. Et donc, il faut qu'il trouve un moyen de nourrir femme et enfant. Et il va se mettre à écrire pour les pulps, donc les
magazines populaires,
notamment Black Mask, simplement parce que les pulps sont... À l'époque, il n'y a pas d'industrie du livre, donc il y a des pulps dans tous les... On envoie ça aux gens qui sont au fin fond des États-Unis. Il y a des westerns, il y a des romans d'amour, il y a des histoires de détectives. Et il a la chance, là, c'était des stacanovistes, ils étaient payés a penny a word, donc plus ils écrivaient, plus ils gagnaient un peu d'argent. Et lui, très naturellement, il va raconter dans ses histoires, dans ses nouvelles, ce qu'il a vécu, à cette différence près que il va insuffler quelque chose de totalement novateur qui est la vraisemblance, c'est-à-dire il parle de ce qu'il connaît, il parle de la ville américaine, c'est pour ça qu'une des grandes thématiques du roman noir américain qu'il a créé, ça sera le milieu urbain, milieu pathogène, mais un milieu urbain, par opposition au cottage anglais où les détectives de salon font leur déduction dans leur fauteuil. Et surtout, il fait parler ses personnages avec le langage de la rue. Donc tout cet effet de réel, finalement, va à son insu créer un genre nouveau qui est repéré par le rédacteur en chef de Black Mask, Joseph Shaw, et qui dit à tous les autres écrivains de l'école Black Mask, je veux que vous écriviez comme ce type-là. Et tous ces autres écrivains, ce sont ceux que vous allez retrouver à la série noire, en France, chez Gallimard après la guerre, des gens comme Raoul Whitfield, Raymond Chandler, etc. Tous ces gens-là sont passés par une école d'écriture qui s'appelle l'école des durs à cuire. Voilà.
Alors, l'œuvre d'Achiel Hammett est autant puissante que rare, hein, pourrait-on dire, puisqu'au final, il y a 5 romans, une cinquantaine de nouvelles. Alors, et d'ailleurs, Hammett s'est arrêté d'écrire vers 40 ans. Alors, est-ce que ce sont ces problèmes de santé qui expliquent le fait qu'il arrête très vite d'écrire, finalement?
Alors, l'arrêt de l'écriture, c'est certainement ce qu'il y a de plus tragique dans sa vie. Vous le soulignez, il a 40 ans, il a publié 5 romans, une cinquantaine de nouvelles, c'est un auteur de best-seller, il gagne beaucoup d'argent. Hollywood s'intéresse à lui parce que cette forme d'écriture, ce style très dégraissé qui fait sa marque de fabrique, évidemment, c'est du pain béni pour les studios qui viennent à la fin en 1927 avec le premier film parlant qui cherche des scénaristes. Et donc, Hammett non seulement est un auteur de best-seller, mais il est courtisé par les studios. Il travaille pour la Paramount. Voilà, il a signé le scénario d'un film de Roy Mamoulian qui s'appelle City Streets, les carrefours de la ville. Il travaille beaucoup. Enfin, il est très connu. C'est une personnalité en vue. Et il va arrêter d'écrire. Son dernier livre sort en 1934, L'Introuvable. Donc en gros, il a écrit 5 romans qui sont publiés entre 1929 et 1934. Après, il n'écrit plus rien. Et une des ambitions de l'exposition, c'est pour ça que ça s'appelle le mystère Hammett. Il ne s'agit pas du mystère de détection, il s'agit du mystère sur cet homme. Et le mystère, c'est pourquoi il a cessé d'écrire. Alors, j'ai pas tenté de donner une réponse, j'ai essayé de donner plusieurs
réponses.
Comment ?
Je dis, vous n'avez pas encore toutes les réponses.
Ben, disons que l'exposition avait pour but d'essayer de trouver des réponses. Je pense que les réponses, elles sont multiples. Il y a effectivement ce que vous dites sur un alcoolisme délirant qui l'empêchait littéralement d'écrire, parce qu'il était parfois vraiment si malade qu'il ne pouvait plus rien faire. La maladie, la tuberculose.
Nathalie Bonnat, alors peut-être aussi l'engagement, hein, puisque Hammett, c'est aussi un engagement. D'ailleurs, vous êtes à l'origine de la traduction et de la publication d'un tout petit bouquin par la taille, hein, intitulé Interrogatoire, qui reprend donc l'interrogatoire qu'a subi Achiel Hammett avant d'être condamné à 6 mois de prison. On est en pleine chasse aux sorcières anticommunistes, hein, dans les années 50 aux États-Unis, un interrogatoire mené par le sénateur McCarthy. Donc cet aspect est aussi très important dans le.
Oui, mais le McCarthyisme, c'est quelque chose qui a été très cruel pour lui, puisqu'il a, comme il a refusé de dénoncer ses petits camarades, il est parti en prison. Mais le McCarthyisme, c'est 1946-1954. Or, l'arrêt de l'écriture, c'est 1930. Il arrête d'écrire en 1931-32. Et vous avez raison de souligner son engagement politique, parce que son engagement politique, il ne date pas du McCarthyisme. Il commence déjà dans ses écrits, dans ses nouvelles, Moisson Rouge, mais aussi un certain nombre de nouvelles, où il dénonce implicitement le capitalisme sauvage qui est en train de se développer dans les années 20. Et aussi parce que à partir de 1930, quand il cesse d'écrire, c'est le début de son engagement politique actif. Pas seulement, pour les droits civiques, c'est-à-dire l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Il y a l'engagement contre la guerre d'Espagne, enfin en tout cas aux côtés des républicains espagnols, puis l'engagement contre le fascisme en Europe, la guerre, etc., les meetings anti-nazis, etc. Donc c'est quelqu'un qui a accompagné tous les combats de la gauche américaine, mais dès le début des années 30, et d'ailleurs le FBI ne s'y est pas trompé, puisque dès le début des années 30, le FBI ouvre un dossier sur Hammett parce qu'il a publié un recueil de bandes dessinées qui s'appelle Agent X9, dont les dessins sont faits par Alex Raymond, et le FBI s'intéresse à lui très très tôt, ils n'attendent pas 46 pour s'intéresser à lui. 46, c'est juste le pic de la... C'est le début de ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières, où là, l'hystérie va prendre une forme beaucoup plus systématique, puisque il y a l'histoire de l'affaire des 10 de Hollywood en 47. Les gens sont dénoncés, on les convoque devant des tribunaux, Et ceux qui ne veulent pas plier ou dénoncer d'autres personnes sont envoyés en prison, comme ce sera le cas pour d'autres auteurs qui sont inquiétés, ou des scénaristes, ou des metteurs en scène comme Charlie Chaplin. Voilà.
Alors, Nathalie Bonin, nos auditrices, nos auditeurs auront bien compris que finalement, il ne reste pas beaucoup de mystère hein, pour vous dans la vie d'Achiel Hamet. Alors, on vous retrouve à Arras, au Salon du Livre, le 1er mai. Vous participerez dans l'après-midi à un débat, hein, justement, sur cette question du roman noir et de l'engagement avec Dominique Manotti. Donc ça, c'est le rendez-vous pour le 1er mai. Mais vous serez aussi présente à Arras deux ou trois jours avant, le mercredi 28 avril, à 19h, à l'Office culturel, pour la présentation de l'expo, et qui sera d'ailleurs suivie, hein, vous parliez cinéma, de ce mercredi 28 avril, de la projection du film Le Faucon Maltais de John Huston, une adaptation d'un livre d'Achiel Hamet, projection qui sera suivie d'un débat. C'est bien ça ? On vous retrouve.
Bah écoutez,
vous attendez les billets de train, ils vont arriver. Hein, rassurez-vous, hein, ils vont arriver.
Je viendrai si, avec grand plaisir. Je voulais juste ajouter une chose, c'est que sur le mystère Hamet, parce que Jean-François Villard, qui est quelqu'un, qui est un auteur de romans noirs français, a dit cette chose très juste sur Hamet. Il a dit que bon, personne ne sait pourquoi il a arrêté d'écrire, mais peut-être, Villard dit, il avait peut-être tout dit. Et ça, c'est une chose à laquelle on peut penser quand on voit la qualité des textes et puisque vous parlez d'engagement, la portée encore aujourd'hui, la résonance que ces romans ont aujourd'hui, peut-être qu'il a estimé qu'il avait tout dit. Et voilà, et pour moi, j'ai tendance à me ranger plutôt du côté de la vie de Jean-François Villard, c'est-à-dire que il a, après un roman comme La Clé de Verre, je ne sais pas s'il était facile de faire mieux. Voilà.
Mais écoutez, Nathalie Bonin, merci beaucoup. Nous invitons les auditrices, les auditeurs à prolonger cette discussion, à vous rencontrer, donc soit le mercredi 28 avril en fin de journée, ou alors carrément le 1er mai dans la journée, et en particulier l'après-midi au cours
d'un... Les deux, mon général.
Voilà, d'un débat. Merci bien, Nathalie Bonin. Bonne journée.
Je vous remercie. Au revoir.
What have you ever given me beside money? Have you ever given me any of your confidence, any of the truth? Haven't you tried to buy my loyalty with money and nothing else?
What else is there I can buy you